Vivre à Lausanne.
Et nous démarrons donc avec notre chronique dédiée à l'histoire secrète de Lausanne. Gabriel, tu vas donc nous parler d'une expérience pédagogique du début du siècle.
Oui, Fabien. Après avoir parlé le mois dernier de l'histoire de la prison du Bois Marmais, on va parler aujourd'hui d'une autre sorte de prison, l'école. Car, comme l'écrivait Michel Foucault, quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons ? Mais il est possible d'imaginer des écoles qui ne ressemblent pas à des casernes et à des prisons. Et certains n'ont pas attendu les réformes EVM pour se demander comment on pourrait les construire. À Lausanne, par exemple, un projet original a vu le jour en 1910. Il s'agit de l'école Ferrer, une petite école à contre-courant de l'école obligatoire, créée par des militants issus du monde ouvrier et syndicaliste. C'est à ce projet qu'on va s'intéresser aujourd'hui, sur la base d'un petit bouquin publié il y a quelques années par les éditions Entre-Monde, justement intitulé « L'école Ferrer de Lausanne ». Mais avant tout, pourquoi école Ferrer ? Le nom vient d'un pédagogue espagnol très connu à l'époque, Francisco Ferrer y Guardia. Il avait créé l'école moderne de Barcelone, qui donna naissance par la suite à toute une série d'écoles alternatives en Espagne. Elle défendait un projet éducatif rationaliste pour la mixité à l'école, pour l'égalité sociale, l'autonomie et l'entraide. Évidemment, le pouvoir espagnol de l'époque, monarchiste et catholique, voyait cela d'un très mauvais œil. Et dès que l'occasion s'est présentée, ils ont fait mettre à mort Francisco Ferrer sous le prétexte qu'il serait moralement responsable d'une série d'émeutes contre la guerre coloniale que menait alors l'Espagne en Afrique du Nord. Cet assassinat légal fit scandale dans l'Europe entière, et c'est en l'honneur du mort que notre nouvelle école lausannoise prit le nom d'école Ferrer. La volonté d'ouvrir une école nouvelle s'appuie d'abord sur le constat suivant, énoncé dans le bulletin de l'école en 1910.
Les écoles officielles s'acquittent particulièrement mal de leur tâche lorsqu'elles font l'éducation des enfants du peuple. Au lieu de voir en eux les futurs producteurs qui auront besoin de force physique, de volonté et de clairvoyance, elles leur font faire l'apprentissage de la docilité. Car c'est bien les habituer à toujours croire et à ne jamais rien savoir, comme le dit Rousseau, que de leur permettre trop tôt des manuels dont les formules définitives les dispensent de recourir au travail de leurs mains, de leurs yeux et de leur intelligence.
À cette école de la soumission et de l'ennui, l'école Ferrer veut opposer une école plus libre et plus respectueuse des enfants. Dans une déclaration publiée en 1913, elle proclame les principes suivants.
Un enseignement correct, pratique, vivant, la coéducation des sexes, pas de devoir à la maison, ni religion, ni politique dans les leçons, ni morale en précepte, ni punition, ni récompense, appel constant à l'énergie propre de l'enfant, consultation des parents, collaboration des gens du métier.
Plutôt que d'enfermer les enfants dans une salle de classe, l'école Ferrer va donc les faire sortir le plus souvent possible, à la découverte du monde. Visites de musées, excursions, expériences en plein air, mais aussi visites à des représentants de tous les métiers, parfois des parents d'élèves. L'idée, qui résume ces pratiques, basée sur l'expérience directe, est résumée en cette formule par Henri Rorda, un pédagogue lausannois qui a beaucoup collaboré à l'école Ferrer.
L'activité d'abord, la formule après.
Ce principe se veut le moyen de permettre aux enfants de devenir des individus plus autonomes, capables de comprendre par eux-mêmes le monde qui les entoure. Cela n'empêche pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter, mais l'école ne doit pas être résumée à ces apprentissages formels. Henri Rorda écrit aussi.
Très raisonnablement, on veut que la table de multiplication soit la même pour tout le monde. Je consens encore à ce qu'un accord parfait se fasse sur l'orthographe de tous les mots simples et aussi, si cela ne coûte pas trop cher, sur l'orthographe de certains mots difficiles. Enfin, il est admirable que dans certaines leçons, tous les écoliers fassent la même chose. Mais à côté de ce domaine où l'instruction peut être obligatoire et uniforme, n'y en a-t-il pas un autre où la diversité et la liberté doivent être admises ? Si un jeune collégien dessine avec plaisir, faut-il absolument l'empêcher, durant les milliers d'heures qu'il passe en classe, de dessiner plus fréquemment que son camarade, dont le seul désir est d'aller s'étendre tout nu au soleil au bord du lac ?
Il est bien votre moulin. Où l'avez-vous trouvé?
C'est nous qu'on l'a fabriqué.
Ouais. Et vous savez qu'on peut aussi fabriquer de la lumière avec ça?
La lumière?
Ben oui, de l'électricité.
Faut demander à Hugo Faucon.
Qui c'est celui-là?
Le grand chef.
Ah, et toi comment tu t'appelles?
L'homme carabine, lui le saumon, Et lui qui est mon frère, il s'appelle Tarifon Sauvage.
Ah, faites attention de pas vous ficher à l'eau tous les trois.
Hein? On s'est tous nagés l'indienne.
Hey, oh, regardez les gars, il est fuite.
Elle est belle, dis donc.
C'est pas défendu de pêcher.
Mais qui c'est qui t'a dit ça, œil de faucon?
Je sais que vous êtes.
Devine.
Comment vous êtes venu?
Sur mes jambes.
Comment vous appelez?
Le bison. Et toi?
Albert.
Bonjour Albert. Bah quoi, je vais pas te manger, j'ai cassé la croûte ce matin, j'ai plus faim. Là, ça devait arriver. Enlève tes fesques et fais les sécher. Et toi, le grand chef, frotte-le avec un bouchon d'herbe pour qu'il prenne pas froid.
On a un feu là-bas.
Emmène-le.
Ne pleure pas, va. C'est tout ce que je puise. Je te la donne.
Pourvu que sa mère ne le sache pas qu'il est tombé à l'eau.
Les voisins indiens n'ont pas peur de leur mère.
Oui, mais les voisins indiens ne tombent pas à l'eau non plus.
Oui.
Mais la voiture!
Mais quelle heure il est?
J'en avais une belle manche. Moi, comme tu sais souvent, j'en aurais une pareille. Je te mon père, elle est toujours accrochée au clou. Il dit que comme ça, je t'abîme pas.
Eh bien, un jour, je vous ferai voir comment ça marche.
Quand?
Plutôt que vous le pensez.
Vous l'aurez reconnu à l'accent, les enfants n'étaient pas vaudois. Il s'agissait de l'extrait d'un film français de 1949 intitulé « L'école buissonnière », inspiré de la vie de Célestin Freinet, un autre pédagogue novateur actif dès les années 20. Parmi les nouveautés proposées par l'école Ferrer, on peut aussi mentionner le fait que les filles et les garçons étaient mélangés dans une classe unique. Si cela paraît parfaitement normal aujourd'hui, ce choix de la mixité faisait scandale à l'époque. Jean Vinch, un des instigateurs de l'école Ferrer, la défendait en ces termes.
Destinés à vivre côte à côte dans la société, les hommes et les femmes doivent se connaître dès le jeune âge. Ils doivent aussi se familiariser avec cette idée républicaine, propre au XXe siècle, qu'il n'y a pas de besoin supérieur réservé aux hommes et une science inférieure dont se contenteront les femmes. L'équivalent dans les fonctions, partant le respect mutuel si désirable, s'apprendront par la coéducation des sexes.
En avance sur son temps, sur bien des aspects qu'on ne pourra pas tous développer ici, cette pédagogie était donc avant tout basée sur la curiosité de l'enfant. Chers auditeurs de Radio Django, comme on sait que vous êtes tous secrètement restés de grands enfants curieux, on espère que vous aurez apprécié cette chronique et qu'elle aura attisé votre curiosité pour cette expérience étonnante qu'a été l'école Ferrer. Et si l'expérience n'a duré que 10 ans, le projet n'en restait pas moins passionnant et qu'importe la durée. Nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves, comme le disait Shakespeare. Pour plus de détails, on vous conseille donc d'aller lire l'école Ferrer de Lausanne de Jean Vinch et Charles Heimberg aux éditions Entremonde, ou alors Le pédagogue n'aime pas les enfants, un pamphlet de Henri Rorda, toujours actuel, réédité chez Mille et Une Nuits.
Combien de pattes a vraiment un mille pattes?
D'où vient le cancer?
Comment sait-on l'âge des hiéroglyphes?
Qu'est-ce que c'est que le napalm?
Comment fait-on un disque?
Comment fait-il que l'eau soit incolore?
À quelle vitesse une fusée doit-elle aller pour quitter la Terre?
Quelle différence y a-t-il entre l'opium et l'héroïne?
En quelle année est mort Galilée?
Comment commence un nid de guêpe?
Pourquoi le ciel est-il bleu?
Est-ce que les couleurs existent?
Qu'est-ce que la vitesse?
Si une bombe atomique explosait en Amérique, la radioactivité nous atteindrait-elle?
Où est la nébuleuse d'Andromède?
Pourquoi a-t-on un cœur en deux parties?
Pourquoi y a-t-il du vent sur la Terre?
Merci Gabriel pour cette chronique historique.